Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Merci de nous écouter partout où vous êtes en RDC, chez vous, à la maison, dans votre véhicule, au bureau, au marché ou partout ailleurs. Et merci à tous les internautes qui sont branchés sur www.radiookapi.net. Comment en finir avec les naufrages des embarcations en République démocratique du Congo? Monsieur Didier Moukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, et notre invité ce matin, Monsieur Didier, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous allons également recevoir tout à l'heure Monsieur Gabriel Mokango, directeur technique à la régie des voies fluviales. Ensemble, nous allons parler de ce thème, trop des naufrages à répétition, avec des pertes en vies humaines. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour en finir avec cette affaire? On en parle dans Okapi Service. Dans la deuxième partie de l'émission, comment prévenir les évasions dans les prisons de la RDC? On aborde le sujet à partir de 11h05, heure de Kinshasa. Pour participer à cette émission, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez également vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Mimi Kindou à la mise en onde. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Vous êtes une femme leader. Vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans Okapi Service. Les naufrages des embarcations sur le fleuve Congo et ses affluents sont fréquents à travers le pays. Le dernier cas en date s'est produit à hauteur d'Ipombo, en amont de la ville de Mbandaka, avec un bilan d'au moins 180 disparus, selon nos sources. En outre, d'autres noyades ne sont pas rapportées à cause de l'enclavement des lieux où elles se produisent. Alors, il y en a beaucoup. Après plusieurs cas de naufrages dans le pays, certains Congolais déclarent qu'on disent qu'on en parle tout le temps, mais les actions efficaces pour résoudre le problème tardent à venir. Comment en finir avec ces naufrages qui endeuillent les familles, qui causent des pertes en vies humaines et des pertes énormes en vies humaines et des pertes en matériel? Eh bien, on en parle avec notre invité, Monsieur Didier Moukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Monsieur Didier, encore une fois, bienvenue dans cette émission.
Merci, Monsieur Jérôme.
Alors, d'après vous, quels sont les... On parlait tout le temps des naufrages dans ces pays, mais après, les temps d'émotion, et puis, bon, on oublie, et puis, il y a d'autres naufrages qui arrivent. Qu'est-ce qu'il y a à la base, d'abord, de ces naufrages à répétition?
Merci beaucoup. Vous constaterez qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont à la base de ce genre d'accident. La première responsabilité incombe à l'État. Vous constaterez que l'État vraiment ne s'occupe pas de ce secteur, qui est le secteur très important dans le cadre de transport. Le secteur de transport fluvial n'est pas tellement pris en compte. Vous remarquerez que même depuis que ce gouvernement a été mis en place, on n'a jamais parlé de transport fluvial. Ce sont les autres modes de transport qui sont intéressants, mais les transports fluviales, jamais en aucun jour, même le ministre des transports fluviales, de transport n'en parlait pas. Ça, c'est vraiment un de grands problèmes. Et de deux, et que vous constaterez aussi que nous avons beaucoup des lois qui sont à notre disposition, mais la mise en application pose problème. Tous ces mondes qui sont censés mettre l'exécution de ces lois ne s'en occupe pas et chacun se contente de faire autre chose que le travail qui lui est attribué. Dans l'autre côté, nous avons aussi, je voulais d'abord aussi préciser qu'il y a deux types de bateaux. Nous avons des bateaux métalliques Et celui qui a connu l'accident, par exemple, en Bandaka, c'est un bateau qu'on appelle, un type de bateau qu'on appelle baleinière. Donc, des baleinières, ce sont des bateaux qui sont faits en bois et qui sont différents des bateaux faits en métal. Alors, ces types de bateaux sont devenus tellement trop nombreux. Et pourtant, ce sont des bateaux qui ne pouvaient pas faire de longues distances. Et ce sont des
Les baleinières, non.
Ce sont des bateaux à des petites distances, à des petits dépannages. Mais aujourd'hui, vous constaterez que ces bateaux-là te font des grandes distances, des longues distances, qui s'en gagnent jusqu'à Kinshasa, 1700 km, c'est déjà beaucoup. Et de deux, à l'époque, on a...
Dire que les baleinières, c'est des sortes de grosses pirogues.
Oui, voilà, c'est des grosses pirogues faites en bois. Et aussi, ce sont des types de bateaux qui ne peuvent pas transporter plus de 50 sacs, disons 50 tonnes de marchandises. Mais aujourd'hui, avec tous les petits chantiers qui naissent de par-ci par-là, vous constaterez qu'il y a des bateaux aujourd'hui qui te transportent 250 tonnes avec tous les risques qu'il faut. Donc, c'est pas normal.
Avec des passagers.
Avec des passagers. Ce qui fait que ça porte beaucoup de risques. Et des baleinières, là, ce sont, comme je l'ai dit, c'est en bois. Ça ne peut pas dépasser 3 à 4 ans de vie. Après 3 ans, 4 ans, il faut déclasser ou soit refaire les fonds. Mais vous constaterez qu'il y a beaucoup de baleinières, ils font 10 ans, ils font 15 ans, et puis ils ne sont pas récarénés. Nous avons aussi même les systèmes de navigation. Ce sont des unités... Excusez-moi. Ce sont des unités qui n'ont pas un bon système de navigation nocturne. Pardon. Ils aiment beaucoup naviguer la nuit, mais ils n'ont pas...
Ils n'ont pas tout ce qu'il faut pour naviguer la nuit.
L'équipage, malgré que nous avons maintenant une école qui forme les navigants aujourd'hui.
Mais l'équipage est non qualifié.
Non qualifié, ils sont en train de naviguer comme ça, à vue, avec beaucoup de risques. Nous avons aussi, par exemple, le manque de professionnalisme. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui se réveille, il suffit qu'avoir quelques francs dans sa poche et puis voilà, on va s'investir, acheter une baleinière et on ne sait pas comment l'utiliser. Et c'est ce qui fait que parfois nous avons des capitaines ou bien de l'équipage qui surchargent les bateaux sans que les propriétaires ou l'armateur soient au courant. Et c'est ce genre de surcharge de marchandises et de passagers, c'est ce qui amène aussi, nous amène à toutes ces catastrophes. Et des trois, il y a aussi un problème de manque de bateaux de passagers. Vous remarquerez, vous constaterez que sur le fleuve Congo, nous n'avons pas de bateaux de transport de passagers.
À l'époque, la plupart des bateaux de l'ONATRA sont en panne.
Justement, à l'époque, on n'avait que l'ONATRA qui s'occupait du transport des passagers. Et pour le moment, l'ONATRA, pour le moment, il ne fait plus. Nous avons eu la chance d'avoir un ministre à l'époque qui a fait réhabiliter des unités de transport passagers. Et aujourd'hui, ces bateaux sont... cloué au quai là-bas.
Il y a Kokolo
et Gungu. Gungu, ce sont des bateaux, on a dépensé beaucoup d'argent et qui ont été bien réhabilités avec tous les confrères.
Colonel Béa.
Il y a les colonels Béa et puis Gungu qui sont réhabilités.
Mais juste après, plus rien.
Les moyens ne suivent pas parce que vous savez, faire fonctionner un bateau, l'organisation d'un voyage d'un bateau, ça coûte énormément cher. Et dans les transports des passagers, il n'y a pas de bénéfices. Et je pense que normalement, l'État devait subventionner ces modes de transport pour que l'ONATRA ou bien soit les privés puissent investir dans ces modes de transport des passagers.
D'accord. On va accueillir M. Gabriel. Même,
je voulais ajouter aussi qu'il y a un bateau aussi.
Lequel?
C'est le bateau Kamagnola.
Le
bateau Kamagnola est là.
Le président Mobutu.
Oui, justement, il est là au chantier de l'ONATRA. Il a été refait. Tout son fond a été refait. Les moteurs ont été refaits et le bateau, il est là. Il navigue pas, ça fait bientôt plus de 10 ans, il est là.
Pourquoi il navigue pas?
On ne sait pas, bon, c'est ça le problème. C'est comme ça que je vous ai dit qu'il y a une négligence de ce secteur
par le transport fluvial.
Voilà.
Monsieur Gabriel Mokango, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes directeur.
Et à tous les auditeurs de Radio Capi.
Vous êtes directeur technique à la Régie des Voies Fluviales. Avec vous, on a fait plusieurs émissions sur les cas des naufrages. Des embarcations, des baleinières à travers le pays. Depuis lors, on a l'impression que rien n'est fait sur les terrains pour arrêter cela. On continue à déplorer des cas de naufrage avec des pertes en vies humaines. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec ces cas de noyade ou de naufrage des embarcations?
Merci pour la question. Je me rallie à tout ce que vient de dire le président Mokoma sur les causes ou les facteurs qui sont à la base de cas de naufrage que nous enregistrons au jour le jour. Et c'est vraiment malheureux, malheureux parce que nous avons fait plusieurs émissions et nous avons donné les causes et essayé aussi de suggérer des pistes de solutions pour que nous puissions un peu sortir de tous ces cas. Il est bien vrai que le cas d'accident, on en trouve partout, que ce soit sur les routes terrestres, ferroviaires ou aériennes. Mais ici, comme il a dit, le non-respect des textes, le non-respect des normes de construction de baleinières, et si j'ajoute, il y a aussi un problème de surcharge. Pour le cas dont nous parlons présentement, de la baleinière, quand je vis sur les réseaux sociaux les images, je me suis demandé comment une baleinière peut transporter 180 personnes. Ce n'est pas construite pour les Et puis l'armateur en question, je ne pense pas qu'il a souscrit une police d'assurance pour plus de 30 passagers.
Normalement, une baleinière doit prendre, la limite, c'est combien de personnes?
Ça dépend de tonnage. Nous avons des baleinières de 10, 20, 30, au max 40 tonnes. Mais quand il va au-delà, cela influe même sur la structure même de l'embarcation. Et surtout que ces embarcations sont construites sans normes, le bois ne sont pas traités, et ils n'ont pas le personnel aussi qualifié. Et voilà tout cette litanie de points que nous pouvons relever et qui contribue à grande partie au cas de naufrage que nous enregistrons au jour le jour.
Donc on peut dire que la cause principale des accidents, c'est plus la surcharge.
Bon, ça, c'est un des éléments. Parce que je me dis, cette baleinière qui avait 180 personnes, et chaque personne, si nous donnons qu'il avait un poids, disons 10 kilos, ça vous fait combien? Et cette baleinière était construite pour avoir cet tonnage, je ne pense pas. De deux, il est passé de poste de commissariat fluvial. Comment on n'a pas pu intercepter cette baleinière, dire que non, vous ne pouvez pas parce que la liste d'équipage, quand bien même il a camouflé ou quoi, nous montre que vous avez plus de personnes que vous devez transporter. Et comme le président aussi l'a dit, quelle est la durée de vie de cette baleinière? Est-ce que l'armateur prend soin de respecter le texte pour dire que tous les 3 ans, ou bien 2 ans, il doit amener la baleinière à cale sèche, qu'on voit si on peut colmater le brèche des infiltrations, mettre de bitume, de manière à rendre cette baleinière étanche et qu'il n'y ait pas de infiltrations. Je ne le pense pas. Et je n'ai pas toutes les causes, mais je crois que c'est arrivé la nuit. Et ils ne sont pas habilités à naviguer la nuit.
Pourquoi ils aiment bien naviguer la nuit? C'est pour échapper au contrôle?
Effectivement, mais c'est à leur détriment. Hein? Vous échappez au contrôle, on n'allait pas vous tuer, mais maintenant vous provoquez des morts en cascade de personnes. Hein? Le perte en vie humaine, même à bien matériel dont nous nous déplorons. Et puis la baleinière qui a coulé, il ne prendra pas soin d'aller enlever ça parce qu'il faut renflouer. Et ça va constituer maintenant un danger pour les autres embarcations. Voilà comment, en série, au lieu que le fleuve serve au développement économique du pays, nous en faisons un cimetière.
Bien, merci à tous les internautes qui ont réagi sur Facebook. Tambo et Kasselele depuis Beni nous dit nous demandons à l'État congolais de prendre ses responsabilités car nous sommes fatigués avec tous ces sinistres chaque jour. La plus grande responsabilité revient à l'État congolais. On va accueillir deux auditeurs, Prix Pierrot Pagna de Lubumbashi et Malonga de Kinshasa. Pierrot Pagna, bonjour, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au naufrage à répétition en RDC?
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Carpi. Moi, je me demande des questions à chaque fois que j'entends ce truc de naufrage dans mon pays, parce que je connais bien que la plupart de grandes villes ou la plupart de grands pays, ils ont aussi les moyens de transport, les bateaux. Mais dans mon pays, je ne sais pas si... L'invité peut nous dire, est-ce que le pays ou le gouvernement de notre pays peut nous compter combien de bateaux existent ou combien de bateaux qui sont légalement reconnus? Parce que lorsque vous avez des bateaux identifiés, on donne une instruction avant l'embarcation, on saura quand même identifier qui était là. Quelles sont les conditions pour que ces bateaux puissent débarquer? Alors, moi, je me demande, c'est que moi, j'ai vécu, parce que j'ai fait autant d'années à Calémie où j'ai commencé mes études là-bas. J'ai constaté que la plupart des bateaux, lorsqu'on donne un voyage, mais on ne respecte pas le port de sauvetage. Vous voyez quelqu'un qui entre, peut-être on lui donne. Parce que c'est quelque chose qui lorsque vous portez, ça donne de la chaleur. Alors, les gens peut-être trouvent que ce n'est pas bien de porter ou ce n'est pas bien de se protéger. Ils trouvent l'ambiance qui est dans les bateaux comme ça et ils enlèvent. Est-ce que, je demanderais, est-ce que le pays ne peut pas mettre des instructions en commençant par ceux-là qui sont responsables de quelques bateaux, surtout à l'est, où la plupart des bateaux qui sont là sont privés. Alors, je ne sais pas, est-ce que quand on laisse embarquer ce genre de bateaux qui ne réunissent pas des conditions.
Alors, oui, Pierrot, vous voulez dire que même sur le lac Tanganyika, il y a des baleinières qui naviguent sans respecter les normes, c'est ça?
Je fais quelques voyages. J'ai dit, parce qu'il n'y a pas de rigueur.
D'accord.
Vous voyagez, il suffit seulement de payer. C'est comme si on voit les chauffeurs aujourd'hui. Quelqu'un qui ne connaît pas rouler, qui n'a pas un véhicule, mais qui a le passeport.
Le permis de conduire.
Le permis de conduire. C'est la même chose qui se fait.
D'accord.
Est-ce que l'État peut nous dire réellement combien de baleinières, combien de bateaux que le pays peut avoir et dans quelles conditions pour faire respecter ces conditions?
Merci. Merci. On va donner la parole à Malonga de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à notre invité. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent.
Quelle est votre question, Malonga?
Bon, ma question viendra après, mais je vais présenter d'abord mes remarques. Jody. Si il y a tant de naufrages dans notre pays, si nos eaux, c'est puisque il y a manque de conscience de tous les deux partis, et parti de l'État, et des services qui est chargé de contrôler ça, et du parti aussi des responsables de ces embarcations-là. Puisque moi, aujourd'hui, je vais vous témoigner, j'étais à bord d'une baleinière, arrivé à Kwamutu. Bon, nous sommes arrêté là-bas, mais j'ai vu une autre baleinière qui quittait de Kwamutu jusqu'à Kinshasa. Mais voyez comment est-ce qu'elle était embarquée. Et le champ de service de tutelle était là. Et eux-mêmes ont déploré que est-ce que vous voyez comment est-ce que vous partez vraiment, hein?
Malonga, alors d'après vous, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce stade pour en finir avec cette affaire?
Ce qu'on doit faire est de revenir d'abord à la bonne conscience. Il faut le service qui est chargé de contrôler ça, ça mande. Ils ont besoin seulement de demander quelque chose de là-bas et puis laisser l'embarcation en danger. Et puis ça son naufrage. Et puis le responsable aussi de ces embarcations-là. Eux-mêmes savent que non, s'ils surchargent, ils ont sur les eaux, ils ne sont pas sur la terre. il faut qu'il revienne à la conscience. Et ce qui doit réglementer ça, c'est la loi. Il faut que la loi soit mise à la vigueur. Si ce n'est pas cela, en tout cas je dis, c'est plusieurs fois que nous chantons cela à nos émissions, mais ça ne change pas, ça ne change pas. Vous voyez, nous étions aussi dans cette même embarcation, on embarque et les vaches, et les chèvres, et les personnes. Vous voyez qu'une vache devant une personne, c'est la crainte. En cours de la rivière Kassai, il y a une vache qui se dérangeait beaucoup, et puis la population cherchait à fouiller la vache à tomber sur la rivière. Mais je dis, il faut seulement attendre. Comment est-ce que nous étions tourmentés?
Alors, donc vous étiez dans une baleinière avec une vache?
Avec des vaches, s'il vous plaît, des vaches.
Et les vaches ont commencé à s'agiter?
Oui, à s'agiter. Bon, avec cette agitation, une vache est tombée sur l'eau. C'est par là que j'avais apprécié une vache. Elle ne peut pas trouver la mort sur la rivière. Vous voyez la rivière comme Kassai, mais la vache a fait même 30 minutes en flottant seulement, en flottant, jusqu'à ce que les marais du Soussou qui nous ont fait un secours pour attraper cette vache-là et la remettre encore dans la barrière. Vous voyez tout ça? Si nous aurions vraiment naufragé là, on allait dire que non, ceci. Or, ce manque de contrôle, là où cette baleinière a quitté, il y avait aussi le service de l'État qui devrait harmoniser, normaliser ces armateurs et de dire que non, si vous voulez partir avec des vaches, allez seulement avec des vaches et un petit nombre de personnes.
D'accord.
Là, ils ont laissé cela, vous faites cela.
D'accord. Allez, donc, dans cette baleinière, combien de vaches, combien d'êtres humains?
Bon, en tout cas, là, je n'étais pas vraiment curieux pour compter, mais j'ai vu d'abord aussi quatre têtes de vaches, et il y avait aussi des chèvres et des moutons comme ça, mais des personnes, nous étions plus de 80, de 80 personnes, et d'autres marchandises.
D'accord, merci Malonga. Safari depuis Gabarrière, bonjour. Bonjour Safari.
Oui, bonjour à vous, à monsieur l'invité aussi. Je vais dire ceci. Étiez-vous une fois déjà au lac, monsieur Jody?
Vous voulez parler de quel lac?
Oui, à n'importe quel lac, parce que j'ai une chose à noter.
Oui, allez-y, posez votre question. On a eu l'occasion, l'opportunité de voir les lacs Tanganyika. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus?
D'accord, je pense que vu la position, la disposition alors des lacs et vu la façon dont les bateaux ou les pirogues naviguent sur les lacs, monsieur Jody, j'aimerais dire ceci, si on respectait réellement le tonnage, on ne dirait pas que les accidents ne seront pas là, mais on pourrait quand même réduire le nombre d'accidents de naufrages. Mais le problème qu'il y a avec les Congolais, ce sont des gens qui minimisent tout. Ils sont vraiment des gens trop mafous, même les autorités congolaises. Alors c'est ça le problème qui régit aujourd'hui, que voilà, vous allez voir que les accidents ne sont pas réduits. Donc chaque fois on enregistre les naufrages. C'est ça, ça dépend de tonnage qui ne sont pas respectés. C'est seulement ça ce que j'aimerais noter quant à ce sujet.
Bien, merci monsieur Didier Moukoma. Votre réaction?
Merci. D'abord, par rapport au premier auditeur, monsieur Perrault, il voulait savoir combien de bateaux existent dans notre pays. Ça, c'est aussi un problème que nous avons. Vous savez, nous avons des services qui sont habilités à nous donner les chiffres. Et vous constaterez que ces services vous donnent toujours des chiffres erronés. On ne sait pas pourquoi.
Donc, on peut dire que les bateaux...
Je peux te dire vraiment que...
On n'en a plus.
Des bateaux, on a beaucoup de bateaux pour le transport de marchandises sur le fleuve Congo. Mais pour le transport des passagers, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y en a, mais le peu qu'il y en a ne fonctionne pas par manque de moyens au niveau de l'ONATRA.
Donc c'est beaucoup plus des privés qui ont
En tout cas, il n'y a pas sur le fleuve Congo, il n'y a pas de bateaux de transport passagers. Toutes ces baleinières-là et tous ces bateaux, même en métal, ce sont des bateaux qui sont affectés au transport des marchandises. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est illégal. Mais c'est comme par manque de moyens de ces bateaux, c'est pour cela que vous voyez des bateaux de transport de passagers. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a un afflux sur les bateaux de transport de marchandises. Parce que Par exemple, les Mandaka, les billets, je ne sais pas pour le moment, étaient coûtés, je ne sais pas, $150 ou $200.
Kinshasa-Mandaka
par avion. Mais tout le monde n'a pas les possibilités
de prendre l'avion.
Et aussi, quand vous constatez que ce sont ces gens-là, et par exemple, il y a au moins ce sont 5 sacs ou 10 sacs de maïs qui pouvaient vendre sur place, mais par manque d'opérateurs économiques qui peuvent investir dans les milliers d'euros, ces gens-là sont obligés de se déplacer avec ces sacs
leurs marchandises ici.
Ce qui fait qu'il y a exode rural. Et pour lutter à cet exode rural, nous devons, l'État doit voir aussi que, comment relancer.
Donc après la vente de leurs sacs de maïs, ils ne retournent plus chez eux.
Ben ils viennent des fois, ils n'ont même pas où loger. Quand ils viennent, ils chargent ces 5 ou 10 sacs de maïs, ils viennent avec jusqu'ici à Kinshasa. Et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de gens dans des ports là-bas. Ils vendent ces sacs de maïs là-bas. Il dort là-bas, il achète ses petits produits manufacturés et il rentre dans son village. Ce qui fait que tous ces gens-là, ils ne peuvent pas payer des avions pour venir vendre les maïs. Et voilà, donc un des grands problèmes aussi, c'est l'éviter l'exode rural. Et pour éviter cet exode rural, nous devons voir comment relancer l'activité agricole et économique dans des milliers d'euros, au lieu que tout le monde, nous puissions toujours investir dans des centres dans des villes. Ça, c'est un grand problème. Un autre, par rapport à notre deuxième auditeur, qui a parlé d'une manque de conscience des partis. Bon, je l'ai soulevé tout à l'heure, dans mon introduction, j'ai dit aussi, j'ai affirmé, oui, il y a aussi une responsabilité de notre part en tant qu'armateur. C'est pourquoi, parce que on ne sait pas choisir qui est armateur et qui ne l'est pas. Tout le monde, il suffit que tu aies un peu d'argent, tu deviens armateur. Normalement, ça devait être organisé. Il y a même une structure qui a été mise en place, qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation. Mais cette structure n'a jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que l'État, le ministère des Transports jusque-là, n'a jamais pris ses responsabilités pour mettre cette structure en marche. Et cette structure, c'est une structure qui régit, qui rassemble tous les responsables du secteur. C'est-à-dire, nous avons les armateurs, nous avons le ministère des Transports, nous avons le ministère d'État.
Et pourquoi la structure ne fonctionne pas encore?
Et jusque-là, c'est la, disons...
Les raisons ne sont pas connues.
Oui, les raisons ne sont pas connues. Ça a été attribué à JET, le groupe d'études des transports, qui est le secrétaire de cette structure. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Donc ça, c'est un des grands problèmes que nous avons, qui fait que nous puissions pas, que nous puissions avoir des problèmes au niveau des armateurs. Et au niveau de l'État, c'est comme nous avons dit. Dans des ports... Nous avons
quel est le service au niveau des ports? Quel est le service qui est censé donner l'aval pour qu'un bateau puisse naviguer?
Il n'y a qu'un seul responsable dans les ports, c'est le commissaire fluvial. Mais vous constaterez que le commissaire fluvial n'a plus aucun rôle dans les ports et c'est tous les services qui sont responsables. Vous allez vous rendre compte même que c'est la DGM aujourd'hui qui est un service d'immigration, mais aujourd'hui la DGM vous donne une autorisation de départ pour un bateau, ce qui n'est pas normal.
Donc il y a pléthore de services, confusion totale.
Confusion, mais vous remarquerez, malgré tous ces pléthores de services, on ne pourra pas vous dire combien de passagers y a-t-il sur un bateau. Donc il y a beaucoup de services qui sont là. Et, bon,
mais avant de quitter le port, il faut présenter le manifeste.
Les manifestes, ça ne les intéresse pas. Vous comprenez que ce qui les intéresse, c'est l'argent.
C'est l'argent.
L'argent, parce qu'aujourd'hui, même cette baleinière qui a coulé, si vous demandez, peut-être le chiffre qu'on a donné, c'est un chiffre imaginaire. Même les noms des passagers qui se trouvaient à bord, on ne vous les donne pas. Mais or, c'est le travail de la DGM. Normalement, s'il y a embarquement des passagers, le capitaine doit présenter une liste avant que le bateau puisse partir. Mais ça ne se fait pas. Tout le monde, ce qui intéresse tout le monde, je pense que c'est l'argent. Et par rapport au niveau technique, il y a une seule direction qui est chargée à contrôler l'état technique
des embarcations. Mais
c'est la direction de la marine et des voies navigables. Mais cette direction n'a pas un service compétent, n'a pas des techniciens qui sont capables de détecter de pannes ou bien la qualité.
Des failles et tout ça.
Mais ce qui intéresse pour le moment la direction de la marine, c'est de percevoir les frais qui sont à payer. C'est-à-dire parce qu'avant de... Normalement, pour que ton bateau puisse naviguer, vous avez une obligation de renouveler l'autorisation de navigation une fois par an. Et ce qui intéresse, avant de payer, de renouveler, il faut payer des frais. Ce sont les frais qui les intéressent.
Donc c'est l'argent qui intéresse tous ces services de l'État.
Il n'y a pas. Et c'est pour cela, certainement, on avait proposé qu'il y ait, au moment même des services, il y a des sociétés privées qui s'étaient présentées pour qu'ils puissent organiser ces services. Ça n'a pas marché. Vous remarquez, dans d'autres pays, nous avons par exemple les Veritas, je ne fais pas sa publicité. Ce sont des sociétés privées qui peuvent vous donner l'état technique d'une unité de navigation sans problème. Mais si chez nous, ça n'existe pas, ça pose beaucoup
de problèmes. Je reviens à vous, le temps de donner aussi la parole à M. Gabriel Mokango. Donc, M. Gabriel, on comprend que c'est le manque de sérieux dans l'application des règles au niveau des services de l'État qui serait aussi à la base de tout ce que nous déplorons. Monsieur Gabriel. Monsieur Gabriel, vous êtes là? Alors, il n'est plus en ligne, on va tenter de l'appeler. Mina Mwanda nous a écrit depuis le Bukavu, il dit: le sérieux dans l'application de règles en vigueur dans les transports maritimes et fluviales s'avère indispensable, tout en restructurant du sommet à la base. Cela pourrait aider implicitement ce secteur qui constitue un danger et un deuil plus d'un Congolais du jour au lendemain. Monsieur Gabriel, vous êtes là? Monsieur Gabriel Mokango? Voilà, je crois qu'il n'est plus en ligne. On va tenter de le joindre dans quelques instants. Vous avez des questions et préoccupations. Nous parlons des naufrages en RDC et comment en finir avec cela. Appelez au 081 890 63 94.
La Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, en partenariat avec le Campus de l'Inde, propose des bourses d'études supérieures dans les filières suivantes. Coordination des projets alternatifs et solidaires et management de territoire et agrobusiness. Ces bourses vous concernent si vous avez réussi à l'examen d'État en 2020 ou 2021 avec plus de 70% dans les filières suivantes: agriculture générale, nutrition, pêche et pisciculture, industrie agricole, industrie alimentaire, sociale, foresterie et vétérinaire. Contactez-nous avant le 28 janvier 2022 à l'adresse e-mail suivante: campus.delinde@fondationdnt.org ou au numéro de téléphone suivant: plus 243 81 068 64 05.
Ceci est un message de la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi.
Bien, nous parlons des naufrages en RDC, comment en finir avec cela? Monsieur Didier Mukoma, représentant des armateurs à la Fédération des entreprises du Congo, et notre invité, nous allons accueillir un auditeur, Jérémy Dekindou. Bonjour. Jérémy, vous êtes en ligne, bonjour. Voilà, on me fait signe qu'il n'est plus en ligne. Je reviens à vous, monsieur Didier Mukoma. Quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il faut éveiller la conscience des Congolais. C'est un problème de conscientisation, parce que les gens sont derrière l'argent et ils ne voient pas les risques que cela peut entraîner. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour conscientiser les uns et les autres?
Bah justement,
faut-il conscientiser, faut-il sanctionner?
Non,
qu'est-ce
non,
qu'il faut
non,
faire concrètement?
Il faut des mesures, il faut des lois. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a déjà une structure qui existe, qui devait fonctionner, mais qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire cette structure, c'est la structure qui pourrait déterminer qui peut être armateur et qui ne peut pas l'être. Donc, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde, il suffit qu'il y ait au moins des moyens, il se permet pour devenir armateur. Non, pour être armateur, il faut avoir une expérience, il faut avoir une connaissance à la matière. Aujourd'hui, si par exemple ces armateurs laissent leur équipage surcharger les bateaux, c'est parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Ils savent pas, ils peuvent avoir un bateau de 250 tonnes, mais c'est pas les 250 tonnes, comment ça se limite, à quel niveau de tirant d'eau, et comment peut-être même calculer cela. Non, ils ne le savent pas. Ça aussi, c'est un problème.
Votre structure rassemble seulement les armateurs qui ont des bateaux en métallique.
Oui. La baleinière, ils ont aussi leur président, ils ont aussi leur association. Mais nous, c'est les bateaux métalliques. Et voilà, c'est comme je disais, tous ces bateaux, des petits baleinières là, normalement, ils ne pouvaient pas faire de grandes distances. Et des dés, ça ne peut pas aussi transporter de grands tonnages. Minimum 40 à 50 tonnes, ça suffit. Mais pour le moment, ces bateaux te transportent 250 tonnes avec plus de 200 passagers, ce qui n'est pas normal. Alors, pour remédier à toutes ces situations, pour moi, je pense qu'il faudra d'abord que l'État puisse prendre en charge ce secteur. pour le moment, l'État ne s'occupe pas de ce secteur de transport. Si aujourd'hui, si l'État prend en charge ce secteur en faisant appliquer toutes les lois par rapport à la navigation, je pense qu'il y aura de discipline et qu'on aura une organisation qui fera que nous ayons moins d'accidents. Et de deux, nous devons aussi voir comment éviter l'exode rural. Il faut que ces gens-là qui sont à l'intérieur du pays puissent se suffire dans de leurs villages pour éviter qu'ils viennent tout le temps. Et s'ils commencent à venir tout le temps ici, alors nous devons mettre les moyens. Les moyens, c'est ce que j'ai dit. L'État doit voir aussi comment...
Mais toutes les embarcations qui connaissent des accidents, les gens ne viennent pas toujours à Kinshasa. Peut-être qu'ils prennent aussi d'autres directions.
Non, 9% ils viennent à Kinshasa.
Ils viennent
à Kinshasa. C'est ce que je vous ai dit. Tout est concentré dans la ville de Kinshasa. Donc, tous les villageois, et comme pour le moment, je connais un peu beaucoup les milieux ruraux, il n'y a plus d'activité comme à l'époque. Il n'y a plus d'activité. Il y avait des grands opérateurs économiques à l'intérieur du pays. Et pour le moment, ça, il n'existe plus. C'est pour cela, ces gens-là, quand ils cultivent ces 3, 4, 5 petits sacs de maïs, ils sont obligés de se déplacer avec. Mais tandis qu'à l'époque, il y avait des opérateurs économiques qui étaient installés à l'intérieur du pays, qui étaient là pour acheter. Ils avaient des magasins et des fois, ils faisaient des trocs. À ce moment-là, quelqu'un n'avait pas besoin de se déplacer à Kinshasa pour venir vendre 5, 10 sacs de maïs. Mais aujourd'hui, par manque de tous ces opérateurs économiques, ces gens sont obligés de se déplacer dans des milliers ruraux pour venir vendre.
On va accueillir deux auditeurs un instant. Hans, vous êtes à Kalima, bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour. Nous saluons tout d'abord les auditeurs de la radio Nyota. Je vous ai donné cette occasion de vous parler aujourd'hui, de prendre contact avec...
Hans, quelle est la question? Passez rapidement à la question, Hans.
Moi, j'aimerais tout d'abord seulement condamner le gouvernement parce que vous entendez par-ci, par-là, il y a parking de moteurs de camions. Pourquoi on ne peut pas avoir aussi de parking pour des bateaux, des pirogues, des baleinières, pour savoir comment les gens sont évacués comme des animaux? Comment on peut utiliser des bateaux qui traversent même naturellement la nuit pour échapper à ça? Il fallait mettre seulement, comme vous attendez le matin, qui me demandait qui avait des parcs qui sont reconnus par l'État, plutôt on pouvait quand même les sensibiliser, savoir comment on est évacué, comment on contrôle ça. Comment on peut permettre à quelqu'un de transporter les personnes, les marchandises,
d'accord,
la nuit,
d'accord,
en ne respectant pas les normes?
Merci beaucoup. Merci, Hans. On va donner la parole à Glody de Kinshasa. Bonjour, Glody.
Bonjour, monsieur Jeudi. Bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre question?
Merci. Je pense que nous devons mettre du sérieux dans ce pays. Nous avons des problèmes partout. Si vous regardez dans les secteurs des transports actuellement en République démocratique du Congo, si nous allons par exemple dans les secteurs aériens, il y a des contrôles qui se font. Mais au niveau de transport fluvial, il n'y a pas de contrôle qui se font.
Quelles sont les solutions que vous proposez, Glody?
Moi, personnellement, je propose ceci. Il faut d'abord reformuler ces secteurs. Si vous regardez aujourd'hui, le commandant fluvial n'existe presque plus parce que je fais un peu de tour. J'ai quitté Kinshasa vers Bandundu. J'ai fait des constats dans les différents ports. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de commandant fluvial ou de commandant fluvial qui sont là. Il n'y en a pas. Moi, je mérite ceci. Si l'État congolais peut redynamiser ou encore réformer les commandants fluviaux, et on puisse faire aussi des contrôles et aussi d'obliger chaque baleinière à un client d'apporter le sauvetage. Parce que si vous regardez dans les secteurs aériens, il est recommandé à chaque client d'avoir un ceinture. Mais dans les secteurs maritimes, ça n'existe pas. C'est ça ce qui crée des dégâts. Vous savez, si les accidents se passent souvent dans les secteurs aériens, vous allez voir que sur 100% des populations, il y a quand même quelques-uns qui sont aussi... Il y a aussi quelques-uns qui sont aussi là. Mais généralement, dans les secteurs...
D'accord. Donc, il faudrait qu'on exige les bouées de sauvetage dans chaque unité. Monsieur Gabriel Mokango, votre réaction?
Merci. J'étais un peu déconnecté là.
Oh. Oui.
Bon, voilà. Par rapport à tout ce dont les auditeurs ont dit, nous pouvons retenir ceci. Le nombre de unités flottantes qui naviguent sur notre réseau peut être connu et maîtrisé. La plupart de baleinières sont fabriquées à l'intérieur. Mais avant que ça ne soit mis à flot, il y a une autorité. Ça peut être le commissaire fluvial qui remplit les documents. Donc, si au niveau de chaque province, on connaît déjà ces unités, on peut envoyer ça à Kinshasa, où il y a une unité centrale qui peut répertorier, savoir combien d'unités sont encore en état de naviguer en République démocratique du Congo. Parce qu'avant 1980, ça se faisait et c'était connu. Le mal, c'est la libéralisation du secteur qui n'a pas été suivie par des mesures d'encadrement. C'est comme ça qu'il y a des bordements. L'autre a parlé des gilets. En principe, les textes des lois sont clairs et le précisent. Au nombre de passagers, le nombre de gilets. Ce sont des matériels que nous appelons des sauvetages. Chaque passager, quand il monte, il met son gilet. Le maître d'équipage qui est à bord, parce que le commandant ne peut pas s'occuper de ça et conduire, est obligé, comme les hôtesses le font à bord des avions, pour dire, monsieur, serrez votre ceinture de sécurité, et on vérifie. Donc, s'il y a moins de gilets par rapport au nombre de passagers, le commissaire fluvial est dans son droit d'interdire ces bateaux de quitter. Et quand on parle de problèmes de conscience des Congolais, c'est tout à fait vrai que les uns et les autres prennent conscience de leurs responsabilités. Le président a dit, dans le secteur, il faut pas de l'amateurisme. Quel que soit le million que vous manipulez, ou vous financez, mais vous cherchez quelqu'un qui est du domaine, qui connaît, qui peut exploiter pour vous. Vous-même, vous ne pouvez pas, parce que vous ne connaissez aucune loi. Alors, on a parlé aussi des problèmes de distance. Monsieur Jeudi, une baleinière qui est faite pour de petites distances. Il quitte Kinshasa jusqu'à Kisangani. Il traverse des zones de passes dangereuses. Par exemple, je prends le cas du Chenal, où vous avez 20, 25, 30, voire 30 mètres de profondeur. Mmh. Un courant violent. Mais cette baleinière ne va pas résister. Ça risque d'être dérivé et d'aller cogner des roches qui sont sous le rive. Donc, il faut que les gens prennent conscience, sachent que je peux naviguer sur cette tronçon, mais je ne peux pas aller au-delà. Parce que la SETP, ex-ONASCA, avait des bateaux de première ligne qui faisaient le Kasaï et le fleuve Congo. C'était un autre type de bateau, d'un gabarit bien connu. Et les bateaux qui faisaient les affluents aussi. C'était des bateaux de petit gabarit. Donc, ce n'était pas le même bateau qui quittait Kinshasa qui entrait sur les affluents. Donc, que le gens sache, s'il a quitté Mokoto, il a quitté Bouende, il s'arrête en Bandaka. Il vend et il peut charger et rentrer. Mais ne pas s'aventurer venir jusqu'à Kinshasa. Je vis sur la rivière Kouil. Le gens prendre des bidons d'huile de 25 litres, former comme un support et il navigue avec ça. Vous vous rendez compte du danger que nous prenons.
Donc pardon, vous dites qu'ils naviguent avec quoi?
Les passagers qui s'embarquent ne sont pas conscients de dire que non, ça c'est un danger, je ne peux pas prendre place à bord de cette embarcation de fortune. Si chacun se met à sa place, fait respecter des textes et des lois, parce que ça existe, ça ne sert à rien de multiplier ces textes pendant que le premier ne sont pas appliqués, nous allons revenir à de bonnes choses et le secteur sera respecté. Je ne dis pas qu'on va éliminer, mais on va réduire sensiblement le cas de naufrage dont nous déplorons aujourd'hui.
Est-ce qu'il faut restructurer aussi des fonds en comble le service fluvial, le commissariat fluvial, ce service qui est censé donner les autorisations?
Oui, mais je dis, on essaie de le dire. il y a des études financées par le bailleur de fonds qui ont demandé qu'on transforme la direction de la marine à l'autorité de régulation, au même type que les AAC, l'autorité de l'aviation civile, même pour les RTP. Donc, c'est comme ça, on va dire quel est le profil des gens qui doivent être là. Hein? Quand quelqu'un est de la marine, on construit un bateau, même s'ils ont fait ce qu'ils appellent... ils ont signé des contrats avec certaines personnes. Mais ils doivent avoir des personnes habilitées pour regarder le plan du bateau, dire que ces bateaux répondent aux normes ou non. On construit les bateaux à la cité qui ne répondent aucune norme. Un bateau, vous mettez à flot, le bateau est déjà penché d'un côté. Donc il suffit qu'il y ait un mouvement de passagers qui passe de tribord à bâbord, les bateaux chavirent.
Monsieur Gabriel, à l'époque, il y avait un service de je crois, la police fluviale ou de marins. Et lorsque une embarcation navigue sans respect des normes, on l'intercepte et puis on les ramène.
Oui. Et ils viennent en appui. Hein? Ils viennent en appui à la direction de la marine qui a des commissariats fluviaux implantés le long des cours d'eau de l'RDC. Donc, si quelqu'un s'attête, et ils viennent pour que on retire les documents de ces bateaux, et le bateau ne peut pas partir. Bon, même s'il fuit la nuit, mais au poste suivant, on doit dire comment vous avez quitté votre port d'attache jusqu'à cette distance sans que vous ayez des papiers en ordre. Donc, on doit tout surveiller. Quand on doit viser le certificat de navigabilité pour dire que le bateau est en état de naviguer, il faut qu'on mette du sérieux. Ce n'est pas l'argent qui doit passer à vue. Donc, il ne faut pas qu'on vienne avec qu'on doit renflouer les trésors publics au détriment de vies humaines. Le capital humain est très important.
D'accord.
Et puis, conforme... le ministre Justin Kalumba, que je salue en passant, qui, à son époque, avait organisé les états généraux des transports. Il s'en est suivi la formation de quelques commissaires civils. Mais combien faut appliquer les notions qu'ils ont appris?
Donc on retient que c'est la corruption qui gangrène les secteurs, et voilà, les conséquences, des pertes en visuel.
Le laisser aller, le laisser faire, le laisser passer, comme disent les économistes.
Bien, monsieur Gabriel Mokango, merci. Je rappelle que vous êtes directeur technique à la régie des voies fluviales. Excellente journée et à la prochaine. Voilà, monsieur Didier. Monsieur Didier Moukoma, on va conclure. Qu'est-ce qu'on peut retenir? On a compris le problème, c'est la corruption, la complaisance. On laisse faire. Ces baleinières naviguent n'importe comment, il n'y a pas de contrôle.
En tout cas, la première chose est que l'État puisse prendre ses responsabilités. Donc faire appliquer les lois qui existent avec toute ce rigueur. Et d'aider, c'est la mise... en fonction de la structure qu'on appelle Conseil supérieur de la navigation. Et cette structure pourra déterminer qui est armateur, qui est qui ne l'est pas, et pourra déterminer aussi à travers les services de l'État quels sont ces agents qui sont habilités à faire de jouer tel rôle. Et s'il y a même des sanctions, ça sera facile que nous puissions les retracer. Et de trois, nous devons avoir aussi des chantiers navals qui sont habilités à faire des travaux de construction avec de bonnes conditions. Des quatre.
Et peut-être exiger aussi aux propriétaires de ces baleinières, après un certain temps, de ramener leur embarcation.
Justement, c'est ce qui fait partie maintenant dans l'application de la loi. Donc, la loi existe déjà. Il y a je vous ai dit par exemple dans le transport fluvial, nous avons une année à chaque fin d'année, vous devez passer au niveau de la direction de la marine et cette direction doit vérifier si votre unité est encore en état de navigabilité avant qu'on puisse vous délivrer ce que nous appelons certificat de navigabilité. Mais ça ne se fait pas pour le moment, il suffit seulement que tu payes seulement le frais et puis on te met les cachets sur le certificat de navigabilité, ce qui n'est pas normal. De trois aussi, il faut que l'État puisse réhabiliter ou bien mettre en marche les bateaux de transport passagers pour éviter que tous ces passagers qui ont besoin de se déplacer vers le centre-ville ou bien à l'intérieur du pays puissent se prendre d'abord à des unités qui sont habilitées à transporter les passagers, que au lieu de monter sur des bateaux de transport des marchandises. Je pense qu'avec ces quelques recommandations, on pourra éviter tant peu qu'il y ait beaucoup d'accidents sur le transport fluvial.
Bien, Monsieur Didier Moukoma, représentant des armateurs à la FEC, merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup et à la prochaine.